Du ciel à la terre, un ami viendra vous voir ce soir.
Il serait banal d'y voir ainsi.
Oui.
Maintenant, tout est possible.
Ça, je m'en souviens, très bien.
Racontez.
Oh oui, je devais avoir 5 ans.
Et vous, quelle journée particulière choisiriez-vous ? Une journée particulière, c'est là où se croisent une histoire individuelle et l'histoire collective. Et c'est tous les dimanches, vous le savez, à partir de 14h sur France Inter. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Arlette Farge. Bonjour Arlette Farge.
Bonjour.
Merci de passer ce début de dimanche après-midi en notre compagnie.
Une journée particulière. Zoé Varier, sur France Inter.
Arlette Farge, vous êtes historienne, et quand on vous lit, on voit et on entend le XVIIIe siècle. On vous avait donné voix, vous avez donné corps à des personnes qui n'étaient pas jusque-là sujets de l'histoire. Et ce qui vous intéresse, je crois, Arlette Farge, ce sont les vies oubliées. Ce sont les faibles intensités, ce qui ne se perçoit pas immédiatement, le non remarquable, ce qui ne fait pas les grands événements. Est-ce que c'est une présentation de vous qui...
Oui, tout à fait. C'est une présentation de moi et en plus c'est quelque chose qui s'est approfondi année après année au fur et à mesure de mes recherches. Mais c'est vrai que ce qui m'intéressait, c'était lire les témoignages à partir d'un petit accident de rue et donc comprendre et lire surtout les paroles de gens qui n'ont jamais écrit. Et c'était ça que je voulais vraiment à tout prix chercher dans les archives de police.
Donner la parole à ceux qui ne savaient ni lire ni écrire,
voilà,
qui
exactement.
N'avaient pas accès à l'écrit, donc voilà. Dont on ne sait rien, si ce n'est ces archives judiciaires.
Oui, c'est ça. Avec elles, on arrive à savoir des choses quand même, mais enfin, c'est vrai, dont on ne sait rien normalement.
Alors Arlette Farge, vous avez choisi comme journée particulière un jour de 1970. Ce jour-là, votre directeur de thèse, le professeur Robert Mandrou, vous accompagnait pour la première fois aux Archives nationales.
Les archives françaises, nationales, départementales, communales et hospitalières, sont parmi les plus riches du monde. Car en effet, c'est l'histoire du monde entier qui est enclose dans ces cartons, ces registres, entassé sur les 250 km de rayonnage dans le dépôt de Paris, auquel il faut ajouter 700 km de rayonnage dans les 90 dépôts départementaux. Les archives, les auditeurs vont s'en rendre compte, sont plus une ruche qu'un tombeau.
Arlette Farge, est-ce que vous avez, vous gardez des images de cette première visite en 1970 des Archives nationales ?
Bien sûr, puisque de toute façon, j'étais pas destinée à être historienne, j'étais destinée à être juriste. Moi, je savais rien de ce monde qui allait m'engloutir. Je savais pas que ça serait une journée si particulière. Alors oui, je m'en souviens comme si c'était hier, parce que d'abord, c'est totalement impressionnant d'arriver dans la cour de l'hôtel de Soubise, rue Rambuteau, cet espace magnifique, et de rentrer dans les lieux, de monter des marches, on ouvre des portes, puis là, on voit une salle en silence, avec un président de salle, et là, faut pas rigoler quand même. Il y a une solennité du lieu, et puis après, il y a les démarches pour obtenir... ce qu'on appelle un carton d'archives, voilà. C'est d'ailleurs pas un carton d'archives parce qu'en 1970, elles sont pas encore dans des cartons. Ce sont des liasses. Donc il arrive devant moi une liasse vraiment très abîmée, tous les bords déchiquetés et simplement sanglés et noirs, mais noirs. Vraiment, je m'en souviendrai toujours de poussière accumulée depuis, je sais pas, des dizaines d'années. Donc même mettre les mains dessus, on avait tout de suite les mains noires. Bon, et c'était ce qu'on appelait la série Y, sur laquelle j'ai constamment travaillé.
Alors c'est quoi la série Y ?
Alors la série Y, c'est les archives du lieutenant de police, et c'est les archives, si vous voulez, de tous les commissaires, il y en avait 48 à Paris, dans les quartiers, où il y a tous les procès-verbaux, dès qu'il se passe quelque chose choses dans la rue, dès qu'il y a un délit, qu'il soit petit ou qu'il soit grand, et tous les témoignages, parce qu'il y a des témoins, et puis il y a les interrogatoires, enfin, c'est tout ce qu'on connaît dans la procédure judiciaire actuelle, si vous voulez, d'un incident de rue, sauf qu'il y en avait énormément.
Oui, parce qu'on vivait dans la rue au 18e.
Ben voilà, comme on vit dans la rue, c'est constamment, quoi. C'est, la relation avec le commissaire de police, elle est d'ailleurs étonnante, parce qu'on est quasiment tous les jours chez lui, parce qu'il s'occupe aussi de la voirie, il s'occupe de tas de choses.
Et ce qu'il faut dire aussi, Arlette Farge, c'est qu'au XVIIIe siècle, il y a tout un système de contrôle et de surveillance de la population qui est en place.
Voilà, c'est ça qui m'avait intéressée, c'est que juste à la fin du XVIIe siècle, en 1667, c'est l'arrivée d'un lieutenant général de police, et c'est la première fois qu'il y a cette notion de contrôle sur la ville. Ça, je peux dire que ce contrôle, ça marchera pas très bien, mais quand même, il sera présent. Et les archives sont extraordinairement tenues, hein, sont vraiment très 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 précises. Et dans les archives nationales, ça représente 7 kilomètres de travée. Et à l'époque où j'y allais, les magasiniers, ils allaient en patin à roulettes chercher votre liasse.
Donc là, en 1970, la première fois que vous y allez, à Arlette Farge, aux Archives nationales, on va chercher votre liasse en patin à roulettes.
Oui, mais je ne le savais pas à ce moment-là. J'ai su qu'après, parce que moi, je suis pas dans les magasins. Mais donc, effectivement, heureusement que le professeur Robert Mandrou était là, parce que si vous voulez, bon, j'arrive à ouvrir quand même la liasse. Et là... Là, faut déchiffrer l'écriture du XVIIIe siècle et toutes les écritures des greffiers, des commissaires, les signatures des témoins, etc. Donc, bon, moi, au début, je vois rien. Et puis, petit à petit, on s'y fait, et guidé par lui, qui les connaissait très bien.
Mais qu'est-ce que ça veut dire, au début, je vois rien?
Je vois rien. Je peux pas lire, quoi. C'est-à-dire comme si vous voyez un truc illisible. C'est-à-dire vous pouvez pas déchiffrer le procès-verbal qui est là ou le témoin, parce que c'est une écriture qui est très particulière.
Mais vous avez quand même senti ce jour-là, Arlette Farge, en 1970, que vous aviez là dans les mains un trésor. Est-ce que vous avez été happé quand même par ces archives? Est-ce que vous avez compris que là il y avait un monde qui s'ouvrait à vous, un monde inconnu?
Oui, je l'ai senti tout de suite. D'abord parce que j'ai vu que c'était des archives qui n'avaient jamais été ouvertes. Et puis en plus parce que vous ne pouvez qu'être touché. Je crois que personne ne reste indemne d'une entrée dans les archives, parce que effectivement, elles disent tant de choses qu'on ne pouvait pas savoir sur les vies minuscules, les événements qui se passent jour après jour. Et en plus, si vous voulez, il y a quelque chose, un rapport avec le matériau, avec le papier, le grain de papier, l'odeur qui se dégage, qui est vraiment relativement forte, mais pas désagréable. Mais la première fois, ça a été vraiment une secousse très grande de se dire, voilà, c'est un domaine que personne n'a encore entrevu ou presque, et que je vais déchiffrer pour obtenir une thèse. Je savais pas encore que je continuerais tout le temps avec ces archives.
Alors Arlette Farge, vous allez faire une thèse sur le vol des aliments au XVIIIe siècle. Et effectivement, en 1970, vous ne saviez pas encore que vous alliez passer votre vie à déchiffrer ces archives judiciaires, et que vous alliez tirer de l'oubli toutes ces vies que l'histoire... n'avait pas retenu jusque-là.
En fait, j'avais choisi le vol d'aliments parce que déjà, dans ma tête, je voulais que ce soit un tout petit délit. Je voulais pas travailler sur un homicide, un parricide, je sais pas, un gros truc, un gros procès en adultère. Je voulais travailler sur le petit délit le plus infime. Alors, dans ma tête, je m'étais dit, c'est le vol d'aliments, sauf que je me suis aperçue qu'il partait aux galères, donc c'était pas si drôle que ça. Mais si vous voulez, je voulais déjà travailler sur l'infime. C'était une idée, pour moi, qui était très importante. Mais je savais pas du tout que je continuerais. Je savais pas si la thèse serait bonne. Je savais pas, vous voyez, toutes les angoisses qu'on a à ce moment.
Vous ne saviez pas que vous alliez devenir l'historienne de renom que vous êtes devenue?
Oh non, et puis en plus, ça me fait encore peur.
En 1970, Arlette Farge, les Beatles chantaient entre autres cette chanson-là.
Words are flowing out like endless rain into a pain. neighborhood. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Jackaroo David. Oh, nothing's gonna change. Suns, it calls me on and on across the universe.
Arlette Farge, c'est donc en 1970 qu'a eu votre journée particulière, et en bonne historienne, vous êtes fâchée avec les dates, donc à part 1970, vous ne pouvez pas me dire le mois, rien.
Non, je suis fâchée. C'est-à-dire, je suis pas fâchée avec les dates en histoire, mais je suis une très mauvaise historienne de moi-même. Je sais pas les dates, mais quand même, à peu près, je sais. Je peux suivre le fil, oui.
Ah bon. Oui, donc, oui. Nous, on sait qu'en tout cas, ce jour-là de 1970, vous découvriez pour la première fois les archives de la police judiciaire aux Archives nationales, archives qui deviendront la matière première de votre recherche. Arlette Farge, je crois qu'il vous est souvent arrivé de flâner dans ces archives sans vraiment savoir ce que vous alliez y trouver ou en sortir.
Oui, alors là, c'est une fois que j'avais déjà quand même pas trop mal démarré et que je savais que j'allais avoir voilà la possibilité d'aller pendant longtemps aux archives. Et quelquefois, entre deux publications, je savais pas sur quoi j'allais travailler. Donc, je partais aux archives. Ça, je trouvais ça génial, quoi. Je partais aux archives, l'esprit totalement libre. Puis, je demandais n'importe quelle cote. Donc, on m'amenait un carton. À cette époque-là, c'était mieux conservé. Et je lisais et je recopiais. J'ai tout le temps recopié les archives à la main. Ce qui m'a fait, enfin, ce qui fait rire tout le monde, en gros. Et je l'ai recopié complètement. J'ai jamais pris de notes parce que je voulais. J'avais l'impression très forte que ma main, mon corps, mon esprit, mon âme, mon cœur, tout quoi, entrait vraiment dans les paroles qui étaient écrites là, et que si je les résumais dans des notes de notre langage du XXe siècle, je perdais tout. La langue du XVIIIe, elle est très belle. Et donc, vous voyez ça écrit, vous n'allez pas prendre des notes sur quelqu'un dont justement sur lequel vous voulez travailler ses paroles, son comportement, essayer de le comprendre. Donc moi, je le faisais comme ça, manuellement, j'écrivais, et je regrette pas. Et donc, quand je flânais, je disais, mais c'est drôle, cette histoire, elle est trop bien. Et je la recopiais, ce qui fait qu'après, je ne l'ai pas toujours utilisée, sauf lorsque j'ai écrit « Vise oubliée » en me servant de ces reliquats. Voilà.
Alors, plusieurs fois, Arlette Farge, les archives vous ont prise par surprise.
Qu'est-ce qu'elle a donc fait, la petite hirondelle? Elle nous a volé trois petits sacs de blé. Nous la rattraperons, la petite hirondelle, et nous lui donnerons trois petits coups de bâton. Passe, passe, passera la dernière, la dernière. Passe, passe, passera la dernière, restera. Qu'est-ce qu'elle a donc fait?
Arlette Farge. C'est une chanson du XVIIIe siècle.
Oui, elle est très jolie.
Elle est très jolie. Et alors, vous voyez bien, vous me voyez venir.
Oui,
vous me voyez venir parce qu'un jour, dans ses archives, vous avez découvert un petit sac de toile, un peu enflé.
Oui, c'est très rare de trouver des objets. J'en ai trouvé quelques-uns, mais c'est vraiment très rare. Et là, c'était le premier que je trouvais. C'est-à-dire que dans le dossier, il y avait un petit sac qui faisait peut-être 5 cm de long, qui était renflé, tenu par une épingle, et je ne savais pas ce que c'était. Et normalement, j'aurais pas dû y toucher et retirer l'épingle, mais j'avais bien vu qu'elle était très, les épingles au 18e, elles sont très grosses, elles font des gros trous, donc je m'étais dit que j'arriverais à remettre.
Et là, ça verrait pas.
Je sors pour voir ce qu'il y a dedans, et là j'étais vraiment, il y a tous les petits grains de blé dorés qui tombent sur mes papiers. Et j'étais prise d'émotion parce qu'en même temps, je lis que ces petites graines ont été envoyées par une jeune fille à un médecin où elle lui explique ce mystère qui l'encombre beaucoup, que ses seins, tous les mois, produisent ces petites graines de blé qu'elle lui envoie. Bon, il s'avère qu'après, ça s'en va très loin, ce petit sac de blé, parce que l'Académie de médecine va s'en occuper, ça s'en va, les docteurs vont s'interroger, on ne sait pas encore bien comment marchent les règles, etc. Et puis, on s'apercevra à la fin que c'était une supercherie. Mais peu importe la fin. Ce qui est intéressant, c'est tout ce trajet qu'on fait, ces graines de blé, pour venir jusque sous mes yeux. Elles étaient de 1700, je crois, 60, ou quelque chose comme ça, étalées sur mes papiers. Là, vraiment, c'est vrai, ça m'a émue. En plus, c'était tout doré. Enfin, je comprenais pas, quoi. C'était super conservé. Et donc, ça, c'est très fort, une surprise comme ça.
Est-ce que, Arlette Farge, ce jour-là, avec ces petits grains de blé, vous avez eu l'impression de toucher de vos doigts le 18e siècle?
Bah, faut pas romantiser trop, quand même.
Ah bon?
Non, il faut pas.
Dommage.
Et, non, non, mais si. Mais je veux dire, on est à la fois, comme je vous dis, moi j'étais très émue, et à la fois il y a la rationalité de votre vie d'historienne qui pouf, vous met une petite claque, et puis il faut quand même continuer à être sérieux, quoi. Et parce que l'émotion, ça je le savais depuis que j'avais commencé mes études et ma thèse, l'émotion, il fallait la contrôler beaucoup. Enfin, les pères aimaient qu'on la contrôle beaucoup. Donc moi, j'étais encore
à essayer de la contrôler.
Cette
émotion. Voilà. Mais pourtant, les archives n'ont pas cessé de vous surprendre et certainement de vous émouvoir à chaque fois.
Oui.
Encore un peu plus.
Elles m'ont émue et souvent, vous savez, c'est drôle, elles m'apportaient des espèces de sentiments de colère. Je vais vous donner un exemple. C'était l'époque où on parlait beaucoup que, puisqu'il y avait beaucoup d'enfants abandonnés au XVIIIe siècle, à peu près 20 000 par an à Paris, ce qui, effectivement, est beaucoup, énorme, qui se retrouvaient après aux enfants trouvés, à l'hôpital des enfants trouvés, on en déduisait très rapidement qu'il n'y avait pas d'instinct maternel. Et moi, je sais pas, moi, j'avais déjà la tête qui, je me disais, c'est bizarre. Et, aux archives, je retrouve d'abord aux archives de l'assistance publique, où j'avais voulu aller. Puis après, aux Archives nationales, je retrouve, mais conservé merveilleusement aussi, je sais pas, des centaines et des centaines de billets qui avaient été mis par les parents dans les langes de l'enfant qu'ils abandonnaient, et aussi des objets. C'est-à-dire, vous trouvez à la fois un petit billet écrit pour demander qu'on s'occupe bien de lui, qu'il aime telle chose à telle heure, même c'est très très touchant. Et puis aussi, souvent, par exemple, si c'est une petite fille, une petite boucle d'oreille. Puis l'autre, là, les parents conservent l'autre parce qu'il va grandir. Est-ce qu'on va reconnaître la boucle d'oreille, etc. Bon. Et donc, quand j'ai vu cela, j'ai tout de suite eu envie de publier et de dire, bah, c'est plus compliqué que ça, 20 000 enfants abandonnés. On peut abandonner ses enfants au 18e et les aimer. Et ça, j'y tenais, mais j'y tenais vraiment. J'ai tenu tête à des historiens que je n'aimerais pas, très connus. Et vraiment, Là, je me suis dit que c'était vraiment un plaisir d'archive d'avoir trouvé ça, une émotion extrêmement grande, plus cette femme qui vient chercher son enfant à l'hôpital des enfants trouvés, 8 ans après l'avoir déposé, et qui ne la reconnaît pas. Donc, on lui en présente devant elle 5 petites enfin. Filles de 8 ans, 5 enfants. Elle reste longtemps, puis elle dit « Oui, mais ça doit être celle-là », et elle l'emmène. Mais quand vous lisez ça, vous savez... Je sais pas, ça vous change. Ça vous change la vie, ça vous change même le présent. Ça vous change beaucoup de choses.
Ce qui vous importait, c'est qu'on dise que ces gens pauvres qui étaient dans la misère pouvaient aimer leurs enfants parce qu'on avait une image de ce peuple dépréciative.
D'abord, le XVIIIe siècle ne rendait pas... on appelait le peuple, la populace, etc. Et il se trouve aussi que je travaillais à cette époque-là avec Jacques Rancière et dans son équipe, et il m'a apporté beaucoup. Et donc, je comprenais que le peuple ne pouvait pas être traité ainsi. Non seulement il avait des sentiments aussi forts que ceux que nous pouvons avoir et aussi complexes, mais qu'en plus, il pensait. Et donc, j'étais vraiment engagée, non pas pour donner une idée idyllique du peuple qui serait vraiment formidable et tout, d'autant que j'étais que dans des délits. Donc voilà. Là, j'étais loin de ça. Mais je voulais lui rendre au moins ce qu'il avait.
C'est-à-dire de montrer aussi un rapport à l'écrit, avec tous ces petits billets, avec tous ces petits papiers, mais y compris pour les enfants abandonnés. Là, je vous cite dans un de vos livres, « Effusion et tourment, le récit des corps, histoire du peuple au XVIIIe siècle ». Je lis juste ça. Il s'agit d'une mère qui écrit, qui amène son enfant à la sage-femme du quartier. « Madame la supérieure, je vous prie par pitié d'avoir soin par pitié. » De cet innocent attendu que ses pères et mères sont actuellement dans l'indigence absolue. Et lorsqu'ils se verront au mieux, ils ne manqueront pas de venir le retirer très vite. Ils ne cessent de prier pour la conservation des personnes qui voudront avoir la bonté de s'en occuper bien. On voudrait que l'enfant s'appelle Angélique Rosalie. C'est magnifique. Oui. Ou un autre billet de 1760 que vous avez découvert dans les archives. Par la misère du temps, l'on est obligé de laisser cet enfant, mais on le retirera le plus tôt qu'il sera possible et la recommande aux bontés des dames. Voilà. Voilà ce que vous avez trouvé, Arlette Farge. Ça vous émeut?
Oui, ça m'émeut. Ça m'émeut encore.
Ça vous émeut encore?
Ça m'émeut encore. Parce qu'en même temps, je sais comment ça, pour certaines lettres, elles sont glissées à l'oreille de l'écrivain public, quelquefois, parce que la personne ne peut pas l'écrire elle-même. Ou alors, c'est en phonétique. Et ça aussi, quand c'est en phonétique, c'est encore plus émouvant, bien sûr. Bien sûr.
Et c'est ça aussi que vous avez voulu montrer dans votre travail, Arlette Farge, que ces personnes qui ne savaient ni lire ni écrire avaient un rapport particulier à l'écrit. Oui. Vous l'avez montré avec ces billets qu'on trouvait dans les langes des enfants, mais vous l'avez trouvé aussi dans les papiers, les petits objets, des poches des personnes qui mouraient dans la rue. C'est-à-dire que ces archives-là sont conservées.
Oui, celles-là, c'est dans les archives nationales. On les trouve, ce sont des procès-verbaux. Quand quelqu'un était noyé ou mourait dans les chemins de halage, dans les rues ou dans les routes, eh bien, tout était conservé. Donc, il y avait description des habits, etc. Et puis, ça avait déjà été travaillé, je le savais. Mais il y avait dans les archives, il y avait des petits endroits à part, un peu compliqués, donc je me mets à les lire. Et là, je m'aperçois que ce sont, d'abord, je trouve un petit bracelet. Je vois des petits objets, un petit bracelet de parchemin, d'où le livre, je l'ai appelé le bracelet de parchemin, avec un petit fil qui devait être au poignet, qui était sur cette personne, et c'était son nom. Et c'était en fait quelqu'un qui s'était évadé d'un hôpital. Bon, alors déjà, ça, c'était vraiment impressionnant. Et puis, par ailleurs, moi, je trouvais beaucoup de morceaux de lettres de parents, de lettres, alors là, vraiment souvent écrites en phonétique quand même, ou alors des certificats de travail, et aussi des prières, des papiers, des imprimés. D'ailleurs, c'est ce que j'aimais bien, moi, c'est que je voyais qu'on déchirait. Moi, j'aime bien ça, l'idée qu'on peut déchirer une page de livre, puis on la met dans sa poche parce qu'on l'aime beaucoup, quoi. Ouais. Et... on le fait plus, ça, faut pas le faire. Mais au 18e, c'est ça. On a ça dans les poches, puisqu'on voyage tout le temps, on est itinérant, on est une population mobile.
Et comment vous avez analysé le fait que même des personnes qui ne savent ni lire et écrire aient dans leur poche de l'écrit?
Si vous voulez, ils savent que l'écrit, Ils savent que l'écrit, que le pouvoir, que les commissaires, que les gens qui, les compagnons, les maîtres, tous se servent de l'écrit. Ils ont besoin de certificats de soldats quand ils sont soldats. Donc ils savent très bien que l'écrit c'est très important. Et d'ailleurs très souvent ils savent lire, mais pas écrire, parce que c'est plus facile quand même. Donc ils ont dans leur poche évidemment un rapport à l'écrit qui est absolument évident, même s'ils ne le maîtrisent pas complètement.
Vous écrivez être identifié, appartenir à un système légitime, c'est marqué que le corps est saisi par le droit.
Oui, c'est vrai. Ben c'est vrai, parce que là, dans ces, on s'aperçoit dans ces gens noyés ou bien morts sur les routes qu'ils allaient chercher un travail. On retrouve finalement par ce qu'ils avaient dans les poches où ils allaient chercher un travail, où ils étaient en congé d'une vie à l'armée et puis ils traversent la rivière à la nage et ils se noient, etc. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'accidents. Donc oui, bien sûr, par le droit, parce que ils ont des quittances, ils ont des certificats qu'ils ont bien payés. Un loyer.
C'est comme une preuve de leur propre existence.
Alors, c'est une preuve de leur propre existence. On peut pas tout savoir de ce qu'ils ont, parce que quelquefois, c'est pas lisible facilement. S'ils sont noyés, vous imaginez que les papiers sont pas... Non. Bon, et de même, s'ils sont morts sur la route, etc. Mais c'est facile de comprendre tout de suite ce rapport à la religion, d'une part, à l'écrit, à la filiation, à l'amour des parents, les lettres reçues par les parents, et... Bon, ben voilà, ils vivent en société, une société qui se sert de l'écrit.
Je vous lis encore, c'est une archive que vous avez trouvée dans une des poches d'un homme mort sur la route. En cas, c'est presque du phonétique.
Oui.
En cas qu'il m'arrive quelque accident, je m'appelle Louis Maupin, natif de la ville de Rue de Picardie, 5 lieues d'Abbeville, juridiction d'Amiens, étant de la religion catholique, apostolique et romaine.
Oui.
Pour être sûr qu'il sera enterré.
Bien sûr, ça c'était, même pour les enfants nouveau-nés, c'était qu'il y ait le baptême vraiment tout de suite, c'est demandé, bien sûr.
Ces enfants abandonnés, sinon on pensait que leur âme errait.
On pense que leur âme volait, enfin, vous savez, leur âme n'avait pas de repos et s'en allait complètement, et tournoyait dans les cieux.
Du plus loin que me reviennent l'ombre de mes amours anciennes, du plus loin du premier rendez-vous, du temps des premières peines, lors j'avais 15 ans à peine, cœur tout blanc et griffes aux genoux. Que ce fut, j'étais précoce, de tendres amours de gosse, où les morts furent d'un amour fou. Du plus loin qu'ils m'en souviennent, si depuis j'ai dit je t'aime, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. C'est vrai, je ne fus pas sage, mais j'ai tourné bien des pages, sans les lire blanches et puis rien dessus. C'est vrai, je ne fus pas sage, et mes guerriers de passage, à peine vus, déjà disparus. Mais à travers leur visage, c'était déjà votre image, c'était vous déjà et le cœur nu. Je refaisais mes bagages et poursuivais mon virage. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Sur la longue route qui menait vers vous, sur la longue route, j'allais le cœur fou. Le vent de décembre me gelait au cou. Qu'importe décembre, si c'était pour vous. Elle fut longue la route, mais je l'ai faite la route. C'est le lac qui menait jusqu'à vous. Et je ne suis pas parjure si ce soir je vous jure. Et pour vous, je lui fête à genoux. Il en eût fallu bien d'autres que quelques mauvais apôtres, que l'hiver ou la neige à mon cou, pour que je perde patience et j'ai calmé ma violence. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Mes temps d'hiver et d'automne, de nuit, de jour et personne, vous n'étiez jamais au rendez-vous. Et de vous perdre en courage, soudain me prenait la rage. Mon Dieu, que j'avais besoin de vous. Le diable vous emporte, d'autres m'ont ouvert la porte. Heureuse, je m'en allais loin de vous. Oui, je vous fais infidèle, mais vous revenez quand même. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous.
Arlette Farge, ce n'est pas par hasard qu'on écoute cette chanson, qui normalement, cette chanson de Barbara qu'elle a dédiée à son public, vous, c'est une chanson que vous reprenez pour vous et vous la dédiez. Et...
D'abord, Barbara, pour moi, je sais pas, c'est très beau. Et là, sa voix, elle est si émouvante, elle est si pleine de mouvements, de vagues. Bon, je la trouve sa voix très très belle. Et, justement, elle dédie ça à son public. Et quand j'ai entendu ça, alors moi, je voudrais rester très modeste. Mais c'est ce que je sentais dans moi, c'est que je me disais, mais une de mes plus belles histoires d'amour, c'est sûrement d'être entrée dans les archives et d'avoir rencontré. Tous ces gens que j'ai rencontrés et que j'ai voulu non seulement connaître, mais que j'ai voulu transmettre. Et donc, c'est vrai que je pourrais dire, oui, ma plus belle histoire d'amour, c'est eux.
C'est eux. C'est ceux dont vous avez écrit les vies.
Oui.
Ceux dont vous avez écrit le manque et la présence, la oui. façon dont vous êtes allé au creux de leur vie avec ces archives.
J'ai essayé, en tout cas. Mmh.
Alors jusqu'à 15h, c'est la journée particulière de l'historienne Arlette Farge. On vous a beaucoup dit, Arlette Farge, que vous étiez un peu trop dans l'émotion, dans le sensible, et que l'historien se devait de rester dans une objectivité historique, même si vous n'avez jamais bien compris où se trouvait cette objectivité. Et il y a eu une rencontre dans votre vie très importante qui vous a déculpabilisé du rapport que vous entreteniez avec votre sujet, avec vos archives. C'est la rencontre avec Michel Foucault. À quelle occasion l'avez-vous rencontré? Comment se fait-il que vous l'ayez rencontré?
Écoutez, c'est ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que la rencontre avec Foucault, qui se passe en 79, c'est pas une rencontre, c'est un coup de téléphone. Donc, je reçois un jour un coup de téléphone. Ici, Michel Foucault, oui, ça...
Bonjour.
Voilà. Bonjour. Bon, et évidemment, j'avais lu Survie et punir, évidemment. J'avais jamais suivi ses cours, mais je connaissais très bien. J'avais été, d'ailleurs, après Survie et punir, je m'étais dit, non, j'arrête tout, tout est dit, là, vraiment. Bon, j'étais fascinée par ce qu'il écrivait et tout, bon. Et qu'il me téléphone, c'était évidemment extraordinaire, et il me demande si je veux pas travailler avec lui sur des archives qui étaient conservées, elles, à la bibliothèque de l'Arsenal, où sont conservées les archives de la Bastille, et où lui s'intéressait tout particulièrement, ça l'avait toujours, il en avait parlé dans un article sur les vies infâmes, c'était les demandes d'enfermement de famille, c'est-à-dire des gens qui demandaient, ou soit un père qui demandait que son fils qui était dit débauché parte à la Bastille, ou bien mari-femme, ou frère-sœur, enfin tous les membres de leur famille, pendant à peu près 40 ans au XVIIIe siècle, ont pu demander directement au roi qu'un des leurs soit mis à la Bastille.
Alors ça, c'est ce qu'on appelle des lettres de cachet. C'est voilà, ça, Arlette Farge. Et donc, voilà, Michel Foucault vous proposait de travailler avec lui sur ces lettres de cachet oui. du XVIIIe siècle.
Voilà, exactement.
Vous acceptez tout de suite ou vous hésitez?
Non, enfin, j'accepte pas tout de suite. Je crois que je suis complètement sidérée. Parce que, si vous voulez, les historiens avaient une espèce de, une fascination très grande pour lui, mais en même temps, des questions à lui poser, était-il ou non historien ou était-il philosophe? Bon, bref, je le rencontre alors après, et voilà, et on commence à travailler ensemble sur les lettres de cachet.
Et ça a été un moment très important de votre vie. Vie a basculé, mais je vous propose qu'on entende Michel Foucault parler de ces lettres de cachet.
La lettre de cachet est demandée d'en bas. C'est un processus qui va de bas en haut. On demande une lettre de cachet au roi pour régler un certain nombre de problèmes qui sont des problèmes de famille, des problèmes de voisinage, des problèmes d'entourage, des problèmes de travail aussi. Et puis, une seconde chose m'avait frappé, c'était l'extraordinaire beauté de ces textes. Extraordinaire beauté parce que, d'une part, bien sûr, on y voit des conflits, des problèmes, des angoisses, on y voit des colères, on y voit des émotions. Et il est finalement assez rare de voir la dimension de l'émotion se traduire immédiatement dans des textes. Et d'autre part, ces documents montrent un très curieux, comment dire, juxtaposition disparate de langage. Dans la mesure où les gens font passer dans ces demandes de lettres de cachet eh bien, leur propre langage, ils disent leurs émotions dans leur langage, mais il y avait toujours derrière eux un écrivain, enfin il y avait souvent derrière eux un écrivain public ou quelqu'un en tout cas qui les aidait à rédiger et qui le rédigeait dans ce style administratif, emphatique, superbe et drapé de l'époque.
C'était donc la voix de Michel Foucault dans une archive INA 1983. C'était dans les lundis de l'histoire.
Oui, c'est Roger Chartier qui l'interview et moi j'étais là aussi.
Vous étiez là voilà. Aussi.
Oui, bien sûr.
Et d'ailleurs, on l'entend parler d'émotion dans cette archive.
Bien sûr.
Et c'est comme si un peu Michel Foucault vous avait donné la permission de vibrer physiquement.
C'est-à-dire, si vous voulez, j'avais lu et là on l'entend dire que c'est rare de trouver les émotions au creux même des archives, mais je l'avais lu et il disait dans cet article sur la vie des hommes et femmes, il disait j'ai eu plus de vibrations physiques à lire ces lettres de cachet que de lire une nouvelle. Et quand on sait à quel point c'était aussi un lecteur et un littéraire, je veux dire, et moi je vibration physique, c'est très fort quand même. Alors Michel Foucault atteint une vibration physique, c'est vrai qu'on est... Bon voilà, c'est formidable. Donc moi, déjà, j'avais ça dans ma tête et sans lui dire ni rien, ce jour-là, je me suis sentie complètement libérée. Si lui pouvait dire ça... Ben alors bon, moi je savais aussi que j'avais un autre handicap, c'est que j'étais une femme. Donc évidemment, ça n'arrange rien, quoi.
Par rapport à l'émotion.
Par rapport à la sensibilité et tout ça. Et donc finalement, je revendique l'émotion, non pas comme. Je pense qu'il faut être très clair sur l'émotion, c'est-à-dire faut pas être larmoyant, ça sert à rien. Et j'ai coutume de dire que. On a tort de séparer l'émotion de l'intelligence. Et pour moi, l'émotion, c'est une stupeur de l'intelligence. Et à ce moment-là, la rationalité, elle intervient après l'émotion ou avec l'émotion. Donc, il n'y a pas à minorer cet aspect-là du travail que fait un historien. Je pense qu'il n'y a d'ailleurs aucun historien qui n'ait jamais ressenti d'émotion en travaillant sur ces documents.
Alors, Arlette Farge, il y a eu beaucoup d'égalité dans votre travail. Lui a travaillé sur les lettres d'enfermement entre les parents et les enfants, et vous sur les lettres de cachet entre mari et femme. Et ça correspond bien à votre engagement aussi, votre engagement féministe. C'est-à-dire, vous n'avez jamais écrit que sur les femmes, mais vous avez toujours écrit sur les femmes dans leur relation avec les autres. Et ça, ça a été très important dans votre travail, Arlette Farge.
Oui, ça a été très important dans mon travail. Ça, j'ai eu cette conviction-là dès le début des années féministes. Bon, d'abord, je revenais des États-Unis où j'avais déjà eu un engagement féministe là-bas. Mais quand je suis revenue en France, j'ai tout de suite milité et j'étais dans les groupes avec Michel Perrault, dans des groupes féministes. Et effectivement, je voyais tout le monde travailler sur les femmes lavandières, la blanchisseuse. Alors je disais bon, je vais pas faire la boulangère quand même. Et enfin j'exagère, mais moi ce qui m'intéressait dans le féminisme, c'était mais comment on va résoudre ce problème de la relation entre hommes et femmes. Moi je dois dire qu'en ce moment ça serait bien. Bon, mais je sais si j'ai travaillé sur l'histoire des femmes puisqu'on a publié avec Michel Perrault en 91 les 5 volumes d'histoire des femmes et moi je dirigeais le 18e siècle. Donc voilà, j'ai donc été comme on le disait une historienne des femmes. Mais en même temps, moi, dans mes travaux particuliers, je voulais pas Je voulais toujours prendre un objet qui permettrait que la relation homme-femme se mette en scène.
Et alors en 1970, à Arlette Farge, cette même année où vous allez pour la première fois aux Archives nationales, il se trouve que vous publiez un article sur le féminisme et la maternité où vous dites que vous êtes femme, féministe, mais que vous aimez être mère et vous aimez la maternité. Article publié dans la revue des Temps modernes. Et suite à cette publication, Simone de Beauvoir vous appelle pour vous rencontrer.
Bonsoir. C'est probablement la première fois que vous voyez Simone de Beauvoir. Comme Jean-Paul Sartre, le compagnon de sa vie, elle refusait, jusqu'à cette année, de paraître à la télévision. Simone de Beauvoir, le deuxième sexe, si on devait le résumer, pourrait peut-être tourner autour de cette idée qui a été souvent reprise depuis, mais que j'aimerais bien vous voir expliquer. On ne naît pas femme, on le devient.
Oui, c'est en somme la formule qui résume l'ensemble de mes thèses. Et ce qu'elle signifie est très simple, c'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est une histoire qui l'a faite, d'abord l'histoire de la civilisation, qui aboutit à son statut actuel, et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie, en particulier c'est l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité.
Les différences biologiques, vous considérez qu'elles ne jouent pas de rôle dans le comportement ultérieur éventuel de l'individu?
Je pense qu'elles peuvent en jouer un, si, elles en jouent un certainement. Bien entendu, c'est très important qu'une femme puisse être enceinte, avoir des enfants, tandis que l'homme ne le peut pas. Ça fait une grande différence entre les deux. Mais ce n'est pas cette différence qui fonde la différence de statut et l'état d'exploitation et d'oppression auquel est soumise la femme. C'est en quelque sorte un prétexte au cours duquel se construit la condition féminine. Mais ce n'est pas cela qui détermine cette condition.
Arlette Farge, vous faites plein de... Vous réagissez à ce que dit... Alors, c'est une archive de 75, hein, oui. Et c'était Jean-Louis Servan-Schreiber qui l'interviewait à la télévision. Moi, ça me fait rire parce que je vous imagine toute jeune historienne face à elle, avec son autorité, disant ce qu'elle vient de dire, et vous disant, moi, j'aime avoir des enfants.
Bah, c'est très particulier parce que moi, j'arrive, je suis enceinte, en plus. Et donc, elle m'invite chez elle. Donc, je vais rue Victor Schœlcher, là, près du cimetière de Montparnasse. Et là, il y avait, elle avait quatre ou cinq de ses amis, plus jeunes qu'elle. Enfin, elle était entourée. Et alors, les amis, elles étaient assez réticentes. Moi, j'arrive, j'étais enceinte de 6 mois, quand même. Et elles étaient pas terribles, quoi. Pas
sympathiques.
Pas empathiques, quoi. Ouais. Et je me trouve devant une Simone de Beauvoir, j'ai pas compris ce qui était arrivé, mais adorable, très gentille, m'expliquant que j'avais vraiment raison, que c'était très bien, que évidemment c'était pas tout pour la femme, enfin bon, voilà, mais qui ne ressemblait pas du tout à cette vigueur qu'on entend là, très forte. Oui, la femme, elle peut avoir... Non, elle avait une espèce de douceur et de présence étonnante, donc c'était une rencontre. Et pour moi, c'était compliqué, parce que quand je suis rentrée des États-Unis, et que donc j'étais enceinte, effectivement, et même à ce moment-là, je militais dans les milieux féministes, et ben vraiment, c'est vrai qu'on me regardait bizarrement, quoi. Il fallait pas trop... ni être avec un mec, ni à attendre un enfant.
Et vous avez toujours été en marge comme ça.
Bah oui, je sais pas si j'arrivais. Oui, j'étais un peu décalée, quoi.
Même dans vos travaux sur les femmes, vous avez travaillé sur la violence des femmes.
Oui. Oui, alors ça, c'était bien parce que c'était au groupe d'histoire des femmes à l'école, des hautes études en sciences sociales. Et là, dans ce groupe, un jour, j'ai dit, mais écoutez, quand même, parce que quelqu'un parlait de séduction. Et moi, j'ai dit, mais enfin, il y a quand même des femmes qui sont séduisantes et qui séduisent quand même, on va parler de ça et tout. Waouh! Bon, et donc, et après, pareil, sur la violence, et j'aimais bien travailler là-dessus, non pas pour abattre le féminisme, mais pour, au contraire, pour moi, c'était aller jusqu'au bout de ce qu'on peut être, comment on vit et comment vivre le féminisme à travers ça.
Je ne sais pas ce que je ferai quand je te verrai. Je ne sais pas ce que je ferai, mais je ne pleurerai pas. Je ne sais pas ce que je ferai quand je te verrai. Je ne sais pas ce que je ferai, mais je ne pleurerai pas. Je ne pleurerai pas. Le train du soir file vers toi, file vers toi. Du vent dans les cheveux et le bruit des essieux. Nos souvenirs qui sont en feu. Le train du soir file vers toi, derrière les montagnes. Le dernier ferry pour le paradis. La compagnie, les soldats du corail qui boivent, qui chantent et qui déraillent. Qui déraillent, qui déraillent, qui déraillent. Je ne sais pas ce que je ferai quand je te verrai. Je ne sais pas ce que je ferai, mais je ne pleurerai pas. Je ne sais pas ce que je ferai quand je te verrai. Je ne sais pas ce que je ferai, mais je ne pleurerai pas. Je ne pleurerai pas.
Le train du soir file vers toi, sans direction, sans chauffeur. Derrière le moteur, j'entends battre ton cœur. Le dernier ferry pour le paradis. La mer serait-il cette nuit?
Je ne sais pas ce que je ferai quand je te verrai. Je ne sais pas ce que je ferai, mais je ne pleurerai pas. Je ne sais pas ce que je ferai quand je te verrai. Je ne sais pas ce que je ferai, mais je ne pleurerai pas. Mais je ne pleurerai pas.
Mais je ne pleurerai pas.
Une journée particulière, Zoé Varier sur France Inter.
Alors c'était pour vous ce disque hein, dans la playlist de France Inter, c'était Raphaël et Pomme, parce que Arlette Farge, vous adorez Raphaël.
Oui, il a une voix douce qui monte, je trouve ça fait du bien.
Alors en parlant, pour parler musique, Arlette Farge en 1970, vous allez me dire si vous vous en souvenez, Nicoletta chantait Mamie Blues, vous vous souvenez de ça?
Non.
Michel Sardou, Le rire du sergent. Non plus. Et Joe Dassin chantait ça.
Les amis, je dois m'en aller. Je n'ai plus qu'à jeter mes clés. Car elle m'attend depuis que je suis né. L'Amérique. J'attends.
Vous vous souvenez de cette chanson?
Oui, je me souviens de cette chanson.
Sans plus, rien à dire.
Sans plus, mais je me souviens.
Alors, pour revenir à votre travail, Arlette Farge, vous êtes une historienne singulière qui met en note de bas de page, qui peut mettre en note de bas de page du Pérec, du Quignard, du Ken Loach ou encore les frères d'Ardenne.
Tu t'appelles Rosetta? Je m'appelle Rosetta. Tu as trouvé un travail? J'ai trouvé un travail. Tu as trouvé un ami? J'ai trouvé un ami. Tu as une vie normale? J'ai une vie normale. Tu ne tomberas pas dans le trou. Je ne tomberai pas dans le trou.
Arlette Farge, le cinéma vous a beaucoup nourri. Pourquoi Rosetta, des frères d'Ardenne? a été si important pour
c'est vous. Le film, il sort en 1999, je crois. Et c'est vrai que de toute façon, j'aime beaucoup le cinéma, je vais beaucoup au cinéma. Mais quand j'ai vu Rosetta, donc c'est l'histoire de cette jeune femme au départ qui a perdu son emploi et qui va se battre finalement, qui a une mère alcoolique, qui vit dans une roulotte et qui habite loin de la ville. Et Rosetta, donc jouée par Émilie Duquesne, elle est absolument extraordinaire. Elle met son corps, son visage, toute son énergie à bousculer tout le monde pour trouver sa place alors qu'elle est de toute façon rejetée. Elle est d'abord rejetée dans l'espace puisqu'elle est loin de la ville et qu'elle est voilà et que à chaque fois elle est obligée de traverser une route. J'aimais beaucoup ces passages où elle traverse une route et elle enlève ses bottes. Et non, c'est le contraire. Elle trouve ses bottes dans un petit trou qu'elle a mis pour aller jusqu'à la roulotte où est sa mère, qui est toujours dans un état plutôt dramatique. Et elle va se heurter à des patrons. Elle va porter des colis sur le dos. C'était une espèce de force. Et pour moi, si vous voulez, ce jour-là, d'abord, j'ai adoré le film. Et puis, en plus, je me suis dit, mais voilà, c'est pour ça que je veux continuer dans les archives. C'est pour les gens qui se battent comme elle, avec une énergie, un savoir aussi, une intelligence. Alors elle dégouline pas d'émotions. Et c'est tant mieux. Et elle est là, et elle prend, à bras le corps, la vie, l'amour aussi, et aussi l'amour pour sa mère, cette espèce d'amour terrible, quoi, finalement. Voilà.
Donc, Rosetta. Alors, il y a un livre aussi qui vous a guidé dans vos recherches. C'est La nuit des prolétaires, archives du rêve ouvrier de Jacques Rancière. On l'écoute.
Bon, la nuit des prolétaires, évidemment, la nuit évoque la face cachée. Les ouvriers, en général, sont considérés comme intéressants par leur journée, c'est-à-dire parce qu'ils sont des travailleurs et parce qu'ils sont des combattants. Et la nuit, c'est ce dont il n'y a rien à dire. Or, bon, il m'a semblé qu'il y avait quelque chose à dire de cette nuit. Pourquoi ? Parce que la nuit, pour tous ces gens, c'est le moment décisif. Bon, ils ont travaillé leur journée et en principe, la nuit est consacrée au repos, c'est-à-dire à reproduire la force de travail pour recommencer le lendemain. Et les gens auxquels je me suis intéressé sont des gens qui ne jouent pas le jeu. Ils ne s'endorment pas, ils cherchent à retarder le plus possible le sommeil en lisant, en écrivant, en apprenant, en se réunissant, en faisant des journaux. Et ils se forgent une autre identité. Dans ce travail où ils décident de ne pas continuer, de s'inventer une autre vie. Alors je me suis donc intéressé à cela, à cette vie nocturne et puis à ses issues. C'est-à-dire cette vie nocturne, elle aboutit aussi à des phénomènes diurnes. C'est d'une part l'appartenance de ces ouvriers à des groupes utopiques. C'est aussi que cela aboutit à forger des gens qui sont des journalistes ouvriers, des dirigeants de grève. Donc de gens qui, à partir de la singularité de ces nuits, arriveront à faire quelque chose qui sera un peu le discours, l'idéologie des ouvriers combattants.
Arlette Farge, c'était la voix de Jacques Rancière, que vous connaissez, que vous avez reconnu. Se battre, s'inventer une autre vie, c'est ça aussi qui vous a tenu.
C'est-à-dire, ce qui était très intéressant de travailler avec Jacques Rancière, parce qu'il avait une équipe autour de lui sur la revue Les Révoltologiques à l'époque, dont je faisais partie, c'était vraiment d'être très intéressé par tout ce qui était la pensée du peuple, même si elle était en miettes, si elle pouvait pas se coordonner, etc. Et surtout, il le dit, le mot, les utopies qui pouvaient sortir, surtout dans cette période où il y a les Saint-Simoniens et tout ça, la période de Jacques Rancière. Mais pour moi, c'est vraiment ce livre, La nuit des prolétaires, d'abord le titre est très beau, et Archives du rêve ouvrier, c'est magnifique. Et donc, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Après, la pensée de Jacques Rancière, elle est super complexe et j'oserais pas dire que c'est tout de lui, hein. Mais je veux dire, c'est vraiment quelque chose de formidable.
En tous les cas, ce que vous savez de commun, c'est de dire que ce n'est pas parce qu'on ne fait pas partie des classes favorisées qu'on est en dehors du monde de l'intelligence et de la pensée.
C'est ça. C'est la pensée. Pour lui, c'est la première chose. Et ça, il a raison et c'est passionnant et ça peut se retrouver.
au XVIIIe siècle.
Oui, bien sûr.
Dans le dernier livre qui vient d'être publié, un livre d'entretien que vous avez fait, Arlette Farge, les derniers mots de ce livre sont, les derniers mots de l'introduction sont « Aimer l'histoire, c'est aimer le monde, aimer l'autre ». Pour conclure, c'est vraiment ça que vous avez fait toute votre vie ?
Bah, c'est surtout, j'espère que c'est ça.
Merci Arlette Farge d'avoir passé cette heure avec nous.
C'est moi qui vous remercie.
Ah, c'était très agréable de vous rencontrer.
Bah, c'est réciproque.
Instant de vie, donc le livre dont je parlais, ce livre d'entretien est publié aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales et Vie oubliée aux éditions de La Découverte. C'est fini, c'était une journée particulière. Une émission préparée par Hugo Combe, à la programmation musicale Djoubaka, à la réalisation Flora Bernard, à la technique aujourd'hui, c'était Victor Ouvrard et Grégory Vallon. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Passez un bon week-end.